Conseil municipal Michel de Vérac et Michel Lagarde, en hommage à ce qu'ils ont fait pour le bien-être de leurs concitoyens, je vais vous demander une minute de silence, s'il vous plaît. Je vous remercie. Alors, nous allons procéder à la désignation d'un secrétaire de séance et je vous propose monsieur Jean-Luc Dacosta. Apparemment désigné à l'unanimité. Je vous indique que j'ai reçu un certain nombre de procurations. Donc, Antonio Nuga a donné procuration à Christine Winkelmann. Raymond Cavazzi a donné procuration à Hervé Auriac. Martine Koeniger a donné procuration à Jean-Luc Dacosta. Et Christophe Lacroix a donné procuration à Sylvette Gilles. Je vous fais part également des divers remerciements que nous avons reçus. Donc, justement, la famille de Michel Lagarde, qui a été profondément touchée par la sympathie que nous leur avons témoignée dans ces jours de peine. De même, Vincent, Clément et Romain tiennent à nous remercier d'avoir pris part à leur peine suite au décès de leur mère, Madame Canac. Nous avons aussi un courrier dont je vous fais part, qui émane de Simone Limongi, qui était président de l'association Au cœur des vignes, donc qui me dit, entre autres choses, je viens vers vous pour vous annoncer que malgré notre volonté, l'ensemble vocal Au cœur des vignes a voté ce 1er juillet 2024 pour la dissolution de notre association. La difficulté à trouver un chef de chœur, le départ d'un groupe de choristes vers Sainte-Cécile, leur ville de résidence, le manque de volonté des membres actifs de constituer un nouveau bureau ont fait que le choix de la dissolution devenait inévitable. Nous remercions M. Marlot, Mme Bergel et l'ensemble des membres du conseil municipal pour leur soutien envers notre association, avec qui nous avons fait ensemble un chaleureux parcours. Voilà, dommage. Toujours la difficulté d'animer des associations, difficulté qui malheureusement s'accroît avec le temps. Nous en sommes au point d'approuver le procès verbal de la dernière séance que vous avez logiquement tous reçu. Est-ce que vous avez des remarques à faire à ce propos? Et Madame Virlouvet.
Alors que
je vais écoutez, ce sera rectifié, bien entendu.
Ça a déjà été rectifié sur celui que vous avez reçu.
Ça a déjà été rectifié sur celui qui vous a été envoyé. Qu'est-ce que vous avez vous...
Après l'envoi.
Après l'envoi. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, nous passons au premier point de l'ordre du jour. Renouvellement et actualisation du traité de concession pour la distribution publique de gaz naturel sur la commune de Camaret-sur-Règue. Le rapporteur est M. Hervé Auriac. Je vous indique que nous avons la chance d'avoir parmi nous deux représentants éminents de GRDF, M. Enjolras et Bonifay, qui, après la lecture du dispositif par M. Auriac, vous feront un petit exposé.
La commune de Camaret dispose d'un réseau de distribution publique de gaz naturel et fait partie de la zone de desserte exclusive de GRDF. Les relations entre la commune, en sa qualité d'autorité concédante, et GRDF, son concessionnaire, sont formalisées dans un traité de concession pour la distribution publique de gaz naturel, rendu exécutoire le 20 mars 1995 pour une durée de 30 ans. Ce traité arrivant prochainement à échéance, la commune a rencontré GRDF le 1er juillet 2024 en vue de le renouveler. Vu les articles L3213-1 et L3214-1 du Code de la commande publique issus de l'article 14 premier de l'ordonnance numéro 2016-65 du 29 janvier 2016 relative au contrat de concession, instaurant des règles spécifiques applicables au contrat de concession de services conclu avec un opérateur économique lorsqu'il bénéficie, en vertu d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif. Vu l'article L111-53 du Code de l'énergie, disposant que GRDF, société gestionnaire des réseaux publics de distribution de gaz naturel, issue de la séparation entre les activités de gestion du réseau public de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par l'entreprise Engie, en application de l'article L111-57 du même code, assure la gestion des réseaux publics de distribution de gaz dans sa zone de desserte exclusive. Le renouvellement du traité de concession se fera au profit de GRDF sans publicité préalable ni mise en concurrence. Vu l'article R3221-2 du code de la commande publique, issu de l'article 32, 3 degrés du, je sais pas quoi, du décret numéro, pardon, troisièmement du décret numéro 2016-86 du 1er février 2016 relatif au contrat de concession portant obligation de publicité d'un avis d'attribution pour les contrats de concession de services conclus avec un opérateur économique lorsqu'il bénéficie, en vertu d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif et dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil européen publié au Journal officiel de la République. L'attribution de la concession GRDF fera l'objet de la publication d'un avis au Journal officiel de l'Union européenne dans un délai maximal de 48 jours à compter de la notification, en l'espèce la date de signature du traité de concession. Le nouveau traité de concession comprend les éléments suivants. La convention de concession, qui précise le périmètre communal concédé, la durée de concession fixée à 30 ans, ainsi que les modalités de son évolution. Le cahier des charges de concession, précisant les droits et obligations de chacun des co-contractants et précisant notamment que GRDF entretient et exploite les ouvrages de la concession en garantissant la sécurité des biens et des personnes et la qualité de la desserte. GRDF développe le réseau de gaz naturel pour accompagner les projets d'aménagement de la commune et de raccordement au réseau de ses habitants. Dix documents annexes contenant des modalités spécifiques, je vous fais fi de la lecture. Le cahier de charges proposé établi selon un modèle négocié avec la FNCCR, Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, et France urbaine, permettra en particulier à la commune de percevoir une redevance de fonctionnement annuel couvrant les frais liés à l'activité d'autorité concédante. Le montant sera actualisé chaque année. Il est de 2 791,40 € pour l'année 2024. De disposer d'un rapport d'activité pertinent de son concessionnaire sur l'exercice écoulé et de suivre la performance du concessionnaire et d'apprécier les conditions de la gestion du service public de distribution du gaz naturel. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le projet de traité de concession pour les services publics de la distribution de gaz naturel avec GRDF tel que présenté et d'autoriser monsieur le maire à signer pour une durée de 30 ans ce nouveau traité de concession pour la distribution publique en gaz naturel avec GRDF sur la commune ainsi que toutes les pièces y afférentes. Oui, ils ont un micro. Alors.
Nous vous écoutons.
Merci. Alors, merci de nous accueillir. Tout d'abord, nous sommes ravis de venir présenter un petit document sur le renouvellement de votre traité de concession, donc pour le service public de GRDF, de distribution de gaz. Donc, je me présente Olivier Monifet. Moi, je suis directeur territorial GRDF pour le Vaucluse, entre autres. Et j'ai repris le Vaucluse au mois de février. Donc, j'ai succédé à Philippe Réchignac, qui était le précédent directeur territorial. Et donc, Christophe Enjolras. Alors, comme il faut aller relativement vite, je le présente et je ne le laisse pas se présenter tout seul. Enfin, sachant que je vais garder le micro après. Voilà, donc Christophe Enjolras, qui est donc l'interlocuteur de la collectivité depuis, je pense, pas mal d'années. Et donc Christophe est en lien très régulier avec la commune. Voilà. On va essayer de... Alors, on a quelques slides, on va essayer de passer rapidement, puisque le temps, pour rentrer un peu dans le temps qui nous est imparti. Donc on a un petit déroulement, je vais passer sur le sommaire. Donc, tout d'abord, les étapes du renouvellement de votre traité de concession. Donc, la première étape, c'est la présentation du projet de contrat. Donc, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, mais vous avez eu, qui a été fait, donc, on l'a dit, au mois de juillet, je crois. Vous devez après donc délibérer en conseil municipal par rapport à ce contrat-là. Puis il doit y avoir un envoi à la préfecture pour un contrôle de légalité, un premier envoi sur la délibération et le projet de contrat. Puis la signature de contrat donc entre la collectivité et GRDF. Et enfin un envoi à la préfecture pour un contrôle de légalité. Donc une fois que le contrat est signé. Voilà. Donc on a quelques étapes devant nous qui nous amèneront, je pense, d'ici la fin de l'année pour pouvoir signer, donc, puisque le contrat doit se renouveler au plus tard en 2025. Voilà. Donc pas de mise en concurrence, on l'a dit tout à l'heure, puisque c'est une zone de desserte historique de GRDF. On reviendra après si vous avez des questions. Donc votre nouveau traité, donc ce traité de concession donc est relatif à un modèle qui a été négocié en 2022, donc c'est un modèle 2022, c'est assez récent, et qui a été négocié avec donc deux fédérations, la FNCCR et France Urbaine, et donc approuvé entre toutes les parties, et donc on a dans ce contrat négocié pris en compte un petit peu les demandes de ces fédérations. Donc on a un contrat cadre aujourd'hui, et c'est ce qu'on vous a présenté, et puis avec quelques paramètres qu'on regarde ensemble. Mais en tous les cas, ce traité, donc, c'est le traité 2022, sachant que le précédent, je crois que c'était le modèle 1994. Voilà, donc le contenu de ce traité, donc, c'est une convention avec un cahier des charges, d'accord, qui est donc signé entre donc, l'autorité concédante, puisque vous êtes propriétaire des réseaux. Hein, c'est la collectivité qui est propriétaire des réseaux. Vous déléguez la gestion de services publics à GRDF, et donc c'est GRDF qui exploite le réseau, qui le développe, voilà, et qui le maintient en assurant la sécurité des biens et des personnes. Donc on a nos missions respectives par rapport à ce traité de concession. Donc ce traité, donc le précédent a été signé le 20 mars 1995 pour une durée de 30 ans, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, sur un modèle donc 1994, et donc avec une redevance R1, la dernière, pour 2024, qui était de 2791 €. Donc je pense qu'on parle du crack après, on y reviendra assez vite, mais bon voilà, c'est un réseau de 13 km sur la collectivité avec 333 clients raccordés au réseau. On y reviendra après sur le crack. J'essaie d'aller relative. Enfin, il veut pas, hein, mais. Voilà. Donc, on a cette mission de service public d'exploiter le réseau donc, de distribution du gaz pour le compte de la collectivité. Mais en plus de cette mission de service public, on a un contrat avec l'État qui nous demande d'accompagner le développement de gaz renouvelable sur le territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on participe totalement, on est un acteur intégré dans, on va dire, la transition énergétique. Alors, si on n'est pas propriétaire des unités de méthanisation, puisque c'est quand on parle de développement de gaz renouvelable, on parle d'unités de méthanisation, on les accompagne, ces développements-là, pour que, petit à petit, ben, le gaz fossile qui circule dans les réseaux de distribution soit du gaz renouvelable, et donc de contribuer à la décarbonation du territoire. L'objectif, c'est d'être à 20% de gaz injecté dans le réseau à échéance 2030, 20% de gaz renouvelable, et d'être à 100% en 2050. Voilà. Et donc, on a aujourd'hui suffisamment de déchets en France, puisqu'on parle là de déchets, pour être totalement autonome en 2050 en gaz renouvelable, et donc de ne plus importer des différents pays qui aujourd'hui nous vendent leur gaz. Voilà. Donc, en renouvelant ce traité de concession, ben, vous engagez le territoire dans la transition écologique, donc sur lequel nous travaillons également. Et on va parler un petit peu de sécurité. Donc, je crois que c'est toi qui prends le relais, Christophe.
Ouais, au niveau sécurité, c'est juste pour vous dire que c'est l'axe prioritaire, et tu l'as très bien dit. Donc on investit à peu près 350 millions d'euros par an au niveau annuel sur la sécurité des réseaux. Ça fait 1 million par jour quand même. Hein. Voilà, donc entre la surveillance, la modernisation du réseau, donc c'est de vrais investissements. Voilà, donc c'est vraiment la sécurité des réseaux et des personnes, c'est l'axe prioritaire de GRDF. On a un réseau très sensible et on doit un réseau fiable à 100%. Bon, pareil, on le verra tout à l'heure sur le crack, mais quand même, deux, trois informations. On a un service d'épanage ouvert 24 heures sur 24. L'appel est entièrement gratuit et on intervient systématiquement pour lever le doute, sans rien facturer. Et donc, vos administrés, l'année dernière, ont eu droit à 5 interventions de sécurité gaz. Sécurité gaz, ça veut dire ça sent le gaz. Et 4 interventions de dépannage, ça veut dire j'ai plus le gaz. D'accord. Donc on doit intervenir sur le territoire en moins de 2 heures et 95% du temps en moins d'une heure. Sur le territoire au niveau département, on est à 97% du temps en moins d'une heure sur l'intervention. Voilà. La surveillance du réseau, on doit surveiller le réseau régulièrement. C'est un véhicule qui passe sur les rues où il y a du gaz enterré, qui renifle l'air et qui détecte les traces de méthane. On ne l'a pas fait l'année dernière parce que vous avez un réseau récent qui est un polyéthylène et on doit le faire tous les 4 ans. Donc il est prévu de le faire l'année prochaine. C'est pour ça qu'on ne l'a pas fait. Voilà. Et pareil, vous avez des robinets réseau qui permettent, quand il y a un dommage aux ouvrages, un tractopelle qui arrache les canalisations, de fermer les robinets pour isoler la panne. Donc ces robinets sont surveillés en permanence pour éviter qu'ils soient grippés et qu'on ne puisse pas les manœuvrer. Ça, je vais en parler vite fait, mais on fera une réunion ad hoc. On a mis en place un outil internet, un portail collectivité locale qui vous permet d'avoir pas mal d'informations sur la concession, mais aussi de pouvoir suivre vos données de consommation des bâtiments publics gaz pour pouvoir respecter les décrets tertiaires. Donc là, on fera une réunion ad hoc, je vous mettrai l'outil en main pour pouvoir l'utiliser correctement. Donc Olivier l'a dit tout à l'heure, vous allez avoir une redevance pour la première année du contrat de 2791. Par contre, c'est marqué en bas, si on avait suivi les conditions du nouveau contrat, la redevance aurait été uniquement de 1 996 €. Donc vous auriez été pénalisé. Voilà. Donc on ne peut pas avoir une redevance inférieure à la redevance précédente. Donc cette redevance ne baissera pas. Après, elle peut baisser dans le temps, suivant quelques conditions et très peu. Mais quoi qu'il en soit, on maintient la redevance initiale. Et là, c'est justement ce que disait Olivier quand on a travaillé avec FNCCR et France Urbaine. C'est pour écouter un peu les desiderata des autorités concédantes. Donc il y a 3 critères qui n'apparaissaient pas jusqu'à présent. Le premier critère, c'est le domaine patrimoine. Dans le domaine patrimoine, c'est la différence entre les immobilisations comptables et ce qu'il y a vraiment dans le sous-sol des communes. Donc aujourd'hui, on sait qu'on a un écart. L'État nous laisse 5 ans pour se remettre à niveau, sans pénalité. Au bout de 5 ans, on fait un point avec l'ensemble des communes sur ce patrimoine. Et si par contre on n'est plus au rendez-vous, on aura des pénalités financières. Et après, vous avez 2 critères. Vous pouvez choisir sur 2 critères, et ça ressemble un peu à ce que propose notre collègue d'Enedis. C'est le temps de coupure et c'est des données clientèles. Donc le temps de coupure, et on peut toujours modifier. Pour l'instant, c'est dans nos réunions ensemble, mais je vais vous présenter les différents trucs et on peut toujours modifier. Dans le temps de coupure, il y a temps de coupure moyen par client du territoire, c'est-à-dire que vous avez un dommage aux ouvrages, il y a 300 et quelques compteurs sur la commune, ça va être divisé par les 300 et quelques compteurs. Ou alors vous avez le temps de coupure par client coupé, c'est-à-dire que vous avez un dommage aux ouvrages, vous avez 30 clients coupés, ça sera la moyenne sur ces 30 clients coupés. Voilà. Donc à vous de choisir ce critère-là. Et après, vous avez un deuxième critère, c'est soit le taux de satisfaction client, soit le respect du catalogue des prestations. Donc ça, c'est pareil, c'est nos missions de service public, c'est l'État qui nous fixe les missions de service public. Sur la deuxième partie, c'est quand même le respect de ce service public et savoir si on est au rendez-vous. La surveillance des réseaux, les dépannages, etc. Donc je pense que ce deuxième critère, c'est là-dessus qu'il faut nous challenger. Voilà. Et donc la chronologie, donc la première fois qu'on s'était vu pour en discuter, c'est novembre 2023. On s'est revu cette année le 1er janvier 2024. Il faudra choisir la date de délibération, la date de signature et après l'envoi en préfecture. Et tout ça avant mars 2025. Nous, ce qu'on souhaite et ce qu'on s'était dit, l'idéal, c'est de mettre la date du 1er janvier parce que pour l'ensemble des critères de contrôle et pour les redevances, on part sur une année complète. Sinon, on est obligé de faire des cotes mal taillées, etc. Et c'est toujours un peu plus compliqué dans le travail et dans le contrôle.
Juste avant de répondre à d'éventuelles questions, nous avons une activité à GRDF qui est très encadrée. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons l'État qui encadre notre activité, nous avons la Commission de régulation de l'énergie qui encadre notre activité par aussi la définition du tarif d'acheminement et de distribution, puisque c'est pas nous qui le décidons, hein, c'est la Commission de régulation de l'énergie, et par les collectivités locales, puisqu'elles sont finalement autorités concédantes sur notre activité. Voilà, donc ce nouveau contrat-là avec des nouveaux indicateurs ben, vous permettent aussi d'avoir un regard, on va dire, un peu plus fin sur notre activité, de nous challenger, comme le disait Christophe, et de monter peut-être aussi votre exigence vis-à-vis de notre activité, parce que on a, c'est ce qu'on disait, une énergie qui est quand même assez sensible, sur laquelle on doit être très, très vigilant, et on essaie toujours d'être, je dirais, au plus près des indicateurs et des objectifs qui nous sont assignés, mais on a aussi toujours la volonté de progresser. De progresser dans le cadre aussi d'un partenariat avec les collectivités, et je crois que c'est le cas aujourd'hui, puisque les relations sont excellentes, et on en parlait tout à l'heure, on espère qu'on va continuer comme ça, mais on en est sûr même, mais sachez qu'on est à votre disposition, on est toujours très, très disponible pour les collectivités, et dans un esprit vraiment de partenariat avec vous, pour essayer de travailler au mieux et de résoudre toutes les problématiques qu'on peut rencontrer ensemble. Voilà.
Oui, et juste un dernier point, on est un concessionnaire qui investit à 100% à votre place sur les réseaux, donc depuis le début, la commune investit zéro sur vos propres réseaux. Et là, on va accompagner le projet du Cabanon, où il faut tirer 1700 mètres de réseau pour les raccorder, il faut que nos collègues du GRT mutent le poste transport, donc il y a quelques billets sur la table, et si je vous dis le montant, ça, c'est vraiment important. Vu les consommations derrière, ni la commune, ni le Cabanon ne participeront financièrement à ces travaux-là. Dans le cas de cette concession, c'est bien ça. C'est bien le distributeur qui prend le risque industriel à votre place et qui ne vous demande absolument pas de financer ces réseaux-là.
Merci pour votre écoute. Et on est à votre disposition si vous avez des questions ou si vous voulez enchaîner sur le crack et puis après poser les questions.
Pour quelles raisons on maintient GRDF, ils n'ont pas d'autres concurrents ? On part sur 30 ans, pour quelles raisons
Alors en fait, les réseaux que l'on va poser sont amortis sur 45 ans. C'est pour ça que quand vous signez un contrat de concession et qu'on développe les réseaux, vous avez obligation de re-signer avec GRDF derrière. Et comme le disait, la commune n'investit pas dans le réseau, mais c'est GRDF qui investit avec le tarif de distribution que nous avons, qui est défini par la commission de régulation de l'énergie. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, il y a une obligation derrière de re-signer avec GRDF.
Y a-t-il d'autres questions ? Monsieur Nomani, prenez le micro, comme ça, mais c'est pour ceux qui vont écouter le conseil.
Oui, bonsoir. Le gaz, vous pouvez nous préciser d'où il vient aujourd'hui, puisqu'il n'est pas complètement d'origine naturelle.
Alors, aujourd'hui, on a différentes sources d'approvisionnement. On a la Norvège, qui est un des principaux pays qui nous délivre du gaz. On a l'Algérie, on a les Pays-Bas, on a un peu les États-Unis, même de plus en plus, enfin surtout depuis la crise ukrainienne. Voilà. Et donc c'est ces pays-là qui nous délivrent du gaz. Cela dit, on a aussi, et je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais je le précise, il y a 10 ans, on avait une unité de méthanisation en France. Aujourd'hui, il y en a à peu près 700. 700, c'est l'équivalent à peu près de 13 TWh. Donc, on est loin des, on va dire, 400 TWh aujourd'hui qu'on consomme en France. Cette consommation, on sait qu'elle va baisser par la sobriété énergétique qu'on encourage, par la performance aussi des matériels, des chaudières hybrides, des packs hybrides qu'on développe. Donc cette consommation va baisser et le gaz renouvelable produit va augmenter. Donc à un moment donné, on va petit à petit s'affranchir justement, et on l'espère à 2050, s'affranchir complètement des livraisons de gaz d'autres pays, de gaz fossile d'autres pays, pour être totalement autonome et pour avoir une certaine maîtrise finalement. Je pense que c'est aussi à ça que vous faisiez référence. Maîtrise de nos tarifs du gaz aujourd'hui qui sont fluctuants et qu'on espère pouvoir maîtriser après, une fois que ça sera produit sur le territoire.
Et juste pour vous rassurer sur l'approvisionnement, on a de la chance d'avoir des frontières avec la mer. Donc le gaz qui arrive, il arrive par bateau liquéfié. Et c'est pour ça qu'on a bu ce privé du gaz russe qui est arrivé par gazoduc. L'Allemagne, c'est pas le cas. Donc la cohésion européenne a fait que le gaz arrive pour l'Allemagne en France, en Espagne et au Portugal, traverse les réseaux de transport en France pour aller alimenter l'Allemagne, qui n'ont pas de frontières avec la mer. Et la deuxième chose, on a la chance en France d'avoir des poches souterraines pour pouvoir stocker le gaz, on en a une à Manosque, ça fait une saison de la région PACA en consommation totale. D'accord ? Donc ça, c'est l'armée qui le gère, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, même en cas de conflit, on sait répondre au gaz sans problème, et aujourd'hui, les réseaux sont dimensionnés pour deux fois plus de capacité que leurs vrais besoins. Donc chaque fois qu'un consommateur en plus, on n'est pas obligé d'investir sur le réseau à chaque fois systématiquement.
Alors, est-ce que j'ai bien compris, d'ici 2050, vous escomptez que 100% du gaz qui sera nécessaire proviendra de la méthanisation ?
Alors, de la méthanisation pour à peu près un tiers de production du gaz renouvelable. Et après, il y a d'autres techniques de production du gaz qui sont en émergence aujourd'hui, notamment la pyrogazéification, qui est, alors c'est plus des déchets fermentissibles comme la méthanisation, mais c'est du bois, par exemple, du bois B, des bureaux, des déchets de ce type-là, qu'on monte à très haute température et qui produisent du gaz. On a peut-être le power to gas aussi, qui est la transformation de l'électricité renouvelable produite et qui est en surplus qu'on peut par hydrolyse de l'eau recombinée avec, produire de l'hydrogène qu'on peut recombiner avec du CO2 pour produire du méthane. Et on a aussi la gazéification hydrothermale qui sera aussi, qui est en émergence aussi. Alors on n'a pas aujourd'hui en France de production de ce type-là, mais voilà, ça va arriver. Et donc on a différentes technologies qui vont nous permettre justement d'être à 100% demain. La méthanisation comptera à peu près pour un tiers.
Sur les nouvelles technologies, on est à phase démonstrateur. Donc on sait que ça fonctionne. Le démonstrateur, c'est pour voir le coût que va revenir l'énergie et comment on va en puiser pour savoir combien on va en retirer derrière, qui est bien une rentabilité. Si ça s'avère rentable, les premiers projets arriveront en 2027-2028. C'est demain. Hein, c'est demain. Et ici, dans la région, on est un peu en retard sur la méthanisation parce qu'on n'a pas un vrai monde agricole et surtout le monde agricole qui allait épandre leur fumier comme ça, qui aujourd'hui passe par la méthanisation et s'évite le rejet de gaz à effet de serre. Voilà. Donc surtout eux. Par contre, sur la pyrogasification, on a un vrai potentiel plus qu'en méthanisation.
On a quand même un projet de méthanisation qui me paraît assez avancé à Mondragon.
Oui. Et on espère qu'il aboutira.
Et on espère qu'il aboutira parce qu'il y a peut-être quelques oppositions.
Absolument.
Et puisqu'on parle de méthanisation, vous avez un terrain très favorable parce que vous avez un tissu industriel qui produit beaucoup de déchets et qu'aujourd'hui on ne valorise pas ou très peu. Donc il faut quand même capter ces déchets et les valoriser. Et surtout quand on méthanise, il faut avoir de la consommation dans le réseau toute l'année pour pouvoir l'injecter. Et vous, ces consommateurs font de grosses consommations toute l'année. Voilà. Donc vous êtes un vrai prescripteur de méthanisation et un territoire, alors pas automatiquement sur Camaret, mais sur le bassin de vie. Ça serait bien qu'un projet qui puisse sortir.
Et ça nous paraît aussi important parce que nous on milite vraiment, enfin il nous semble très important d'avoir dans la région certes mais en France aussi un mix énergétique équilibré. On ne peut pas tout mettre en électricité, on ne peut pas électrifier à tout va parce que ça demande des investissements colossaux. Mais en développant un mix énergétique équilibré avec du gaz renouvelable, avec de l'électricité, peut-être de l'hydrogène demain, on arrivera à vraiment mettre la France dans une disposition de transition écologique favorable.
Et le gaz renouvelable, quel impact sur les tarifs ? Est-ce que ce sera beaucoup plus cher ? Est-ce que vous le savez déjà ?
Alors, non, on a des tendances, mais aujourd'hui, au fur et à mesure qu'on va le produire sur le territoire, le tarif va baisser et de toute façon, malheureusement, je dirais, l'ensemble des énergies vont monter en termes de tarifs. Hein. On prévoit aussi j'écoutais la radio tout à l'heure qui disait que le tarif d'électricité va exploser d'ici 2027. Je pense que toutes les énergies vont monter, mais l'avantage de le produire en totalité sur le territoire, c'est qu'on arrivera à maîtriser ce tarif-là. C'est-à-dire qu'on sera plus soumis à des fluctuations internationales, on va dire. Voilà, c'est l'intérêt.
Très bien. Eh bien, écoutez, merci pour cette présentation. Peut-être que vous allez pouvoir rester quelques instants parce que nous avons une deuxième délibération qui concerne aussi GRDF, puisqu'il s'agit du compte rendu annuel de concession 2023 de distribution publique de gaz naturel de la commune de Camaret, rapporteur Hervé Aurillac. Ah, excusez-moi, on n'a pas voté. Je vais trop vite en vos amis. Alors, qui est contre ? S'abstient, adopté à l'unanimité. Alors voilà. Passons au rapport numéro 2, rapporteur Hervé Aurillac.
Par contrat de concession du 20 mars 1995, il a été confié au gaz réseau distribution France, GRDF, sous forme d'une concession, la distribution de gaz naturel sur la commune de Camaret pour une durée de 30 ans, échéance en 2025. Conformément à l'article 32 du cahier des charges annexé au traité de concession et conformément à l'article L1411-3 du Code général des collectivités territoriales, le délégataire a transmis le rapport annuel 2023. Les chiffres clés de la concession, 13 km de réseau de distribution de gaz naturel, 333 clients du réseau de distribution publique de gaz naturel, 344 en 2022. Zéro première mise en service client, une en 2022, 21 gigawattheures quantifiées de gaz acheminé, 23 en 2022, 58 gigawattheures quantité de biométhane injecté, 55 en 2022. Les incidents suivis et analysés en 2023 sur la concession, 12 appels de tiers, 10 en 2022, dont 4 pour dépannage, 2 en 2022 et 8 pour intervention sécurité, 8 également en 2022. 10 incidents ou accidents constatés, 5 en 2022, 4 manques de gaz ou défauts de pression sans fuite, 5 fuites de gaz sans incendie ni explosion, et 0 par accident ou explosion, et une autre nature. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver ce rapport annuel pour l'année 2023. Y a-t-il des questions ?
Il n'y a pas de questions, donc je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, et donc nous remercions une fois encore les représentants de GRDF. Rapport numéro 3, budget principal 2024, décision modificative numéro 1, rapporteur Liliane Diaz.
Non. Alors, conformément à l'article L1612-11 du Code général des collectivités territoriales, il est proposé une décision modificative du budget principal permettant d'ajuster les prévisions budgétaires initiales votées le 11 avril 2024 tout en maintenant l'équilibre budgétaire. La présente décision modificative tient compte des réalisations d'ores et déjà effectuées et de celles en cours. Vu l'article L1612-11 du Code général des collectivités territoriales, vu la délibération numéro 2024/délib/019 du 11 avril 2024 portant approbation du budget primitif de la commune de Camaret-sur-Aigle pour l'exercice 2024, vu les différentes réalisations effectuées en 2024 et celles en cours, vu l'avis de la commission des finances réunie le 23 septembre 2024, il est demandé au conseil municipal d'adopter la décision modificative numéro 1 du budget principal de la commune telle qu'annexée. Alors, un investissement en R1328-01, est-ce que je les reprends ou pas ? Est-ce que vous avez des questions ?
Nous allons passer la parole à M. Légès qui va donner deux ou trois explications.
Je ne dirai rien de plus que l'adjointe. Simplement, c'est une décision modificative qui ne touche que l'investissement, comme vous avez pu le voir. Le fonctionnement n'est pas touché par cette décision modificative. C'est essentiellement l'intégration de subventions obtenues depuis le vote du budget primitif et leur ventilation en dépenses d'investissement. Voilà.
Merci. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Alors je peux mettre au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le groupe Ensemble Camaret, adopté à la majorité.
Alors je souhaiterais dire un petit mot. Vous savez qu'on est toujours contrôlé par les finances. Et l'IPC, qui est l'indicateur de pilotage comptable depuis 2021, qui est un indicateur qui vérifie les bases de contrôle comptable automatisées et fait des tests aléatoires sur nos résultats comptables. Pour cette année 2023, nous avons obtenu un 100 sur 100. Voilà, c'est pas la première année, donc on est assez fiers de ça. Moi, je suis fière, même si c'est pas de mon fait. Et la moyenne départementale est de 85,2. Donc, je tenais à le souligner parce que bravo à nos services comptables et à M. Bali. Voilà.
Oui, il fallait que cela soit dit. Dossier numéro 4, structure multi-accueil, Boutchou, modification du règlement de fonctionnement, rapporteur Isabelle Latar, à qui nous allons passer un micro.
Par délibération du 16 septembre 2010, le Conseil municipal a approuvé le règlement de fonctionnement de la structure multi-accueil. Ce dernier ayant été modifié par plusieurs délibérations, dont la dernière date du 26 septembre 2023. Vu le changement de direction de la structure multi-accueil et le contrôle effectué par la Caisse d'allocation familiale de Vaucluse, ainsi que la protection maternelle et infantile, il convient d'effectuer une mise à jour de l'ensemble du règlement intérieur et plus particulièrement sur les parties suivantes. Différentes offres d'accueil, révision des différentes sous-parties et suppression des sous-parties relatives à l'accueil de l'enfant présentant un handicap ainsi que l'accueil social. Modalité d'admission, modification concernant les réactualisations du dossier et suppression de l'admission définitive. Accueil de l'enfant et de sa famille, nouvelle formulation d'adaptation et en familiarisation. Vu la délibération numéro 2010-108 du 16 septembre 2010 portant règlement intérieur de fonctionnement de la structure multi-accueil. Vu les délibérations...
Si tu veux, tu peux passer les visas.
Ah,
si tu veux.
Merci, ah oui. Vu l'extrait du projet de règlement présenté avec les modifications envisagées, il est proposé au Conseil municipal d'approuver les modifications ci-dessus mentionnées, ainsi que la mise à jour de l'ensemble du règlement de fonctionnement de la structure multi-accueil, et dire que toutes les autres dispositions restent inchangées. D'autoriser Monsieur le maire à signer tout document afférent à ce dossier.
Merci. Y a-t-il des questions ? Madame Virlouvé.
Oui, j'ai lu le règlement. J'ai cherché les modifications. Souvent, elles sont indiquées par un changement de couleur. Alors, je ne sais pas si le point 4, il y a une partie en bleu. Je ne sais pas si ça correspond à une modification à la page 5, en bas de la page 5. Non, mais...
Oui, enfin... oui, c'est une modification, oui.
Non, ce n'est pas une modification. Non.
C'est une erreur d'impression.
Une erreur d'imagination. Parce que ça, on l'a
toujours eu. L'offre d'accueil s'adresse à un public diversifié. Oui, c'est pas une modification. D'accord. Alors, ben, moi, la seule modification que j'ai vue, c'est quelque chose qui est barré.
Ben, les modifications, elles sont listées dans dans le rapport.
Oui, j'ai vu, mais bon, c'est pas très précis quand même.
Alors, dites-nous tout, Madame Virlouvé.
Bah, j'ai vu que voilà, toute prise de médicaments s'est supprimée. À l'arrivée, les parents doivent, dans l'intérêt de leur enfant, signaler toute prise de médicaments. Donc, ils n'ont plus besoin de signaler. Je ne sais pas, je me suis demandé comment ça se passait alors quand ils ont besoin d'un traitement. Ça, c'était à la page 15.
Après, c'est les modifications qui ont été apportées à ce règlement l'ont été sur demande de la PMI et de la CAF.
D'accord.
Là, je pense qu'ils ont voulu dire que tout problème de santé s'est inclué. Ils ont voulu qu'ils simplifient un peu notre règlement sur un certain nombre de choses.
Tout problème de santé, ça inclut aussi, du coup, toute prise de médicaments. Les deux sont liés, me semble-t-il.
On a suivi les recommandations de la PMI et de la CAF pour les modifications qui sont intéressantes.
D'accord. Non, merci.
Ok. Eh bien, écoutez, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Ensuite, convention de recours à des collaborateurs occasionnels bénévoles de la bibliothèque, rapporteur Francine Deneu.
Là.
À droite,
Alors, par délibération du 17 décembre 2009, le conseil municipal a approuvé le principe de municipalisation de la bibliothèque. Afin d'inscrire ce service public dans une continuité de gestion, permettre un accueil de qualité des meilleurs des lecteurs, mettre en place des animations autour du livre et développer une politique de lecture publique, le soutien des bénévoles de l'association Éclat de lire a fait l'objet d'une convention approuvée par le conseil municipal en date du 22 avril 2010. Dans le respect de la dite convention et sans modifier l'implication de l'association Éclat de lire dans le fonctionnement de la bibliothèque, au regard des demandes régulières provenant de potentiels bénévoles camaretois souhaitant s'impliquer dans le fonctionnement de la bibliothèque sans pour autant faire partie d'Éclat de lire, il est proposé au conseil municipal d'approuver une convention type de recours à des collaborateurs occasionnels du service public bénévole. Ce dispositif permettra de diversifier les modes de recours au bénévolat dans le respect des règles de fonctionnement de la bibliothèque municipale en lien avec les services de la bibliothèque départementale. Vu le projet de convention annexé, il est demandé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document afférent à ce dossier.
Merci. Y a-t-il des questions?
Oui.
Madame Villeneuve.
Alors, Madame Deneux, pourriez-vous m'expliquer ce qui justifie cette décision?
Alors, ce qui justifie cette décision, c'est que c'est une demande qui est faite par les camarades.
Oui. Oui, donc cette modification est justifiée par le fait que pas mal de camarétois, donc qui n'étaient pas adhérents à l'association, ont potentiellement demandé de pouvoir aider à la bibliothèque, ce qui était difficile de leur refuser vu que tous les bénévoles sont les bienvenus dans le service public, on est d'accord. Voilà, tout simplement.
Oui, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi des gens veulent être bénévoles à la bibliothèque sans adhérer à l'association Éclat de lire.
Eh bien, il y a des bénévoles qui aidaient dans d'autres communes et qui habitaient Camaret. Donc, on pensait que c'était quand même plus judicieux.
Oui, il y en a une.
Qu'ils le fassent chez nous. Voilà.
Il y en a une.
Oui, mais bon. Ouais. Il y en aura d'autres.
Vous faites une convention pour une personne.
Non, il y en aura d'autres. Non. Ouais. Il y en a d'autres qui sont proposés également. Donc voilà, il y en a plusieurs.
Bon, moi je vais vous dire quand même ce que j'en pense. Je pense que vous créez un statut qui fait double emploi, qui se met en concurrence avec l'association Éclat de lire. Et pour moi, vous créez un statut contre une association existante. Mmh, et une association qui fonctionne depuis plus de 40 ans, qui fonctionne bien. Et je pense que vous mettez en péril sa pérennité.
Mmh.
Je pense
oui. Enfin, ce n'est pas contre l'association, il faut que ça soit clair. Faut que
ça la court-circuite.
On va laisser monsieur le maire
répondre. Non, je pense que, chers collègues, vous faites une mauvaise interprétation de cette démarche. Il peut se concevoir qu'une personne puisse être intéressée par le fait d'être bénévole dans un secteur déterminé, en l'occurrence la bibliothèque municipale, sans pour autant se sentir à l'aise pour des raisons qui lui appartiennent et sur laquelle nous n'avons pas de jugement à porter, ne veut pas participer à l'association qui existe. Sans pour autant que nous songions à court-circuiter Éclat de lire, que nous remercions infiniment pour sa collaboration à ce service public et sans laquelle, d'ailleurs, la bibliothèque municipale ne pourrait pas fonctionner normalement sans en tout cas recourir à des embauches relativement nombreuses. Donc notre but n'est pas du tout de court-circuiter, de faire concurrence, de faire double emploi avec l'association Éclat de lire. Merci infiniment pour son travail. D'ailleurs, je sais que vous en faites partie. Et pour la même occasion, je vous remercie pour ce concours que vous apportez. il y a des gens qui veulent participer à ce concours, mais je pense en complément. Et là, on a eu relativement récemment le cas où Maria Novella, notre responsable, devait assurer le samedi. Elle a eu le Covid et n'a pas pu. Les bénévoles de l'association Éclat de Lire n'ont pas pu tenir la bibliothèque ce samedi-là. L'autre personne qui se porte de volontaire pour être bénévole, elle aurait pu le faire. Donc en fait, il s'agit plus d'un complément. Je pense que voilà, ça participe. C'est une collaboration. D'ailleurs, la convention qui nous lie avec Éclat de Lire est claire. Elle dit bien que l'association Éclat de Lire contribue à l'activité de la bibliothèque en collaborant avec la commune. Elle participe au développement d'une politique de lecture publique. Et à chaque fois, c'est conçu comme ça. C'est une convention qui n'est pas exclusive d'autres concours.
Bon, vous ne m'avez pas convaincu. Moi, je suis très inquiète. On verra bien. L'avenir le dira. Par contre, il y a autre chose qui me choque dans cette convention. C'est que c'est écrit « Le collaborateur bénévole travaille en lien étroit ». Pour moi, il ne travaille pas, le bénévole. Hein. Il apporte son concours et il ne travaille pas, il n'est pas rémunéré.
Il travaille au sens général et pas au sens du droit du travail.
Je trouve que le terme est gênant. Excusez-moi, mais... Non.
Après, c'est difficile d'expliquer aux bénévoles pour réel de dire qu'ils ne travaillent pas. Voilà, c'est... Oui, bon.
Monsieur le maire, pourquoi ne pas créer un poste pour compléter celui de Maria Novella ? Parce qu'avec les économies que vous faites sur le fait qu'il n'y ait plus de directrice de la bibliothèque, vous auriez pu créer un poste, ça aurait été plus intéressant. Et comme ça, vous auriez une autorité directe sur la personne, et ça aurait été plus intéressant pour vous.
Bon, je sens un petit peu de une petite provocation dans cette question. Au contraire. Bon, vous savez que nous sommes engagés dans une démarche de réduction de nos coûts, de nos dépenses de fonctionnement, et la principale des dépenses de fonctionnement, ce sont les dépenses de personnel. Nous sommes dans une période de vache maigre, et pour autant, nous devons faire face à de nombreux investissements, et les investissements sont en grande partie financés par l'excédent de la section de fonctionnement. Donc, voilà, encore une fois, effectivement, dans un monde idéal, nous aurions embauché une auxiliaire à Maria Novella, bien sûr, pourquoi pas. Mais là, il y a des gens qui se portent volontaires, bénévolement, et on n'a pas trop de raisons, c'est quand même un peu du bon sens, de refuser ce concours. Voilà, écoutez, vous êtes exprimés, je pense que nous pouvons passer au vote. Qui est contre ? Le groupe Ensemble pour Camaret, adopté à la majorité. Dossier numéro 6, dénomination du square jouxtant le Ravelin. Alors, vu le code général des collectivités territoriales, vu le récent aménagement de l'espace jouxtant le Ravelin effectué par les agents du service technique, considérant la nécessité de dénommer cet espace public, considérant que Michel Le Camaret est né le 18 janvier 1915 à Vienne, diplômé de l'école des sciences politiques, ancien de l'école de cavalerie de Saumur, sous-lieutenant de char au début de la Seconde Guerre mondiale, il a été démobilisé suite à une blessure. Il rejoint ensuite la résistance en compagnie de Pierre de Bénouville. Et en rejoint clandestinement l'Algérie au début de 1941, il est interné politique pour complot contre la sûreté de l'État. Il s'évade d'Algérie le 12 juillet 1942 et rejoint Londres. Engagé volontaire dans les forces françaises de l'intérieur, les FFI, il sert dans le commando parachutiste. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle le fit compagnon de la Libération. Après la guerre, il entre dans la carrière diplomatique. Il est deuxième secrétaire d'ambassade à Rio de Janeiro. En septembre 1945, il interrompt cette activité pour faire partie du corps expéditionnaire d'Indochine 1948-1950. Il est ensuite conseiller diplomatique à Madagascar, secrétaire des Affaires étrangères, puis membre de la commission permanente auprès de l'ONU. Revenu en 1964 consul général à Tanger, il occupe ensuite divers postes avant d'être nommé en 1967 chef de la section des affaires générales de la division à la division des affaires politiques de l'OTAN et en 1968 représentant permanent de la France auprès du Conseil de l'Europe avec un rang d'ambassadeur. Consul général à Sao Paulo à la fin de 1972, il achève sa carrière diplomatique comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Birmanie. Le 17 juin 1984, il est élu député européen, commandeur de la Légion d'honneur. Il décède le 24 juin 1987 à Neuilly-sur-Seine. Considérant la vie et la carrière exemplaire de Michel de Camaret, il est demandé au conseil municipal de dénommer l'espace situé près du Ravelin, square Michel de Camaret. Donc, comme vous l'avez vu, il s'agit d'un grand Français, d'un grand patriote, d'un héros de la Résistance. En cette année où nous avons fêté les 80 ans de la libération de Camaret, ben, il me semble que cette dénomination vient à point nommé pour rendre cette fois hommage à la Résistance française. Qui plus est, cerise sur le gâteau, je dirais, Michel de Camaret, la famille de Camaret est une famille d'ici, c'est une famille comtadine. Et je pense que c'est un élément qui a beaucoup déterminé notre choix, sachant qu'il y en avait d'autres. Il y avait aussi Honoré d'Estendorf qui a donné beaucoup de noms, son nom à beaucoup de dénominations, à beaucoup de squares, avenues, places publiques, notamment en Provence. Donc voilà, Michel de Camaret, c'est une belle carrière, c'est un grand résistant, c'est quelqu'un qui est d'origine comtadine. Vous savez que Camaret a fait partie du comtat vénitien, et donc c'est la raison pour laquelle nous avons pris cette décision. Monsieur Boccorsini.
Oui, merci monsieur le maire, je suis impressionné, c'est bien. Alors, d'autant que j'étais à Pernes-les-Fontaines, je peux vous garantir que la famille de Camaret est originaire de Pernes-les-Fontaines et de Mazan. Donc c'est juste pour l'information. En étant dans la famille, il y avait un peintre, j'ai vu des tableaux de la famille de... Alors je ne sais pas si c'est son grand-père ou si les parents, mais effectivement il y avait un de Camaret qui était militaire et qui a peint, qui a peint mal. Alors, je constate une fois de plus, monsieur le maire, que vous imposez aux Camarétois votre idéologie politique en donnant le nom de Michel de Camaret au square du Ravelin. Bon, parce que vous n'ignorez pas quand même que M. Michel de Camaret a été élu effectivement à l'Europe, mais sur une liste du Front National. Bon, vous avez voulu certainement, en mettant cette personne honorable, ripolliner, comme on dit, mettre un coup de peinture sur l'image de votre parti, en sortant du chapeau un résistant européen, membre du FN. Parce que c'est à l'époque, c'est le FN. Si je ne conteste pas la présentation que vous en avez faite, permettez-moi d'y ajouter quelques précisions. Vous avez certainement omis que ce bon M. Michel de Camaret, avant de rentrer en résistance, il a été quand même membre des Camelots du Roi, qui ne sont pas connus pour être des républicains convaincus. Si je passe, et je passerai aussi sur ce sympathique qu'il a eu à la cagoule. Et je ne veux pas surtout omettre qu'il a combattu dans les milices carlistes à côté de Franco contre les républicains espagnols. Ça vous donne quand même un peu la personne. Alors, comme dit votre père fondateur du FN, ce n'est peut-être qu'un détail de l'histoire. Certes, l'histoire de France est chargée de personnages à double visage. On a même eu un président qui était comme ça. Si vous étiez plus le maire de Camaret que le militant politique, vous auriez pu mettre en avant une femme ou un homme du village ayant au mérite reconnu plutôt qu'un personnage que ici peu connaissent. Parce que moi, personnellement, je l'ai découvert avec vous. Je ne savais pas qu'il existait. Alors, certes, il y a eu, monsieur le maire, dans la résistance, quelques membres de votre parti d'extrême droite. Mais comme dit Michel Audiard, il y a aussi des poissons volants. Et ça existe, mais ça ne constitue pas la majorité de l'espèce.
Alors, chers collègues, je n'en entendais pas moins de vous. Et je constate que votre seule restriction, elle est de nature politique.
Oui,
C'est-à-dire qu'en France, partout, il y a des squares, des avenues, des places qui sont des bibliothèques, qui ont un nom d'un homme politique. François Mitterrand, j'en passe et des meilleurs. Voilà, c'est aucun problème. Parce qu'il s'agit de quelqu'un qui a été, à un moment de sa vie, député européen du Front National, alors là, c'est plus possible. C'est du sectarisme politique vraiment primaire. Mais vraiment primaire. Je repasserai la parole, vous savez comment je fonctionne. Je vous laisse vous exprimer autant que vous le voulez. Donc, non seulement vous faites preuve de sectarisme primaire, politique, voilà, c'est un personnage illustre, issu de la région. En ce moment, nous célébrons la libération les 80 ans de la libération de Camaret. On met en valeur la résistance. C'est dit, ah ben non, il ne faut pas parce qu'il a fait partie du Front National. Bon. Vous avez évoqué l'appartenance de Michel Camaret au Camelot du Roi et ses engagements auprès des carlistes. Bon. Ben voilà, c'est exactement, je vous avais dit exactement ce que j'attendais que vous disiez et que j'espérais que vous disiez. Parce que ça permet. Une fois, je ne dis pas une fois pour toutes, mais pour une fois, de mettre un terme à cette manipulation de l'histoire qui ressort en particulier avant, pendant et entre les deux tours, à chaque élection, et qui consiste à dire vraiment une manipulation de l'histoire, le Front National, c'est un parti de collabo. Or, la liste des gens qui se sont engagés dans la résistance, issue de la droite nationale, des Camelots du Roi ou d'autres, elle est très, 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 très nombreuse. Très nombreuse. Et ça, on ne le dit jamais. On ne le dit jamais. C'est donc l'occasion, effectivement, à notre modeste échelle, à Camaret, de mettre un point sur les i et de rétablir une vérité historique. Vous avez donc stigmatisé le Front National. Alors, ça va être un peu long. Là, je vais vous faire la liste de tous les fondateurs et membres du Front National, donc des gens depuis des débuts, qui ont un passé de résistant. Désolé, ça va être un peu long. Monsieur Jean-Baptiste Biaggi, croix de guerre et médaille de la résistance. Madame Rolande Birgi, croix du combattant volontaire de la résistance. Monsieur Jean-Charles Bloch, croix de guerre. Nicole de Bois-Guilbert, médaille de la résistance. Claude Brabant, médaille de la résistance. Le propre frère de Michel Camaret, Jean-Louis de Camaret, croix de guerre, ancien FFI. Michel Carrage, compagnon de la libération, commandeur de la Légion d'honneur. Maurice Catalan, croix de guerre. Albert Chambon, médaille de la résistance, ancien déporté. Pierre Chénet, croix de guerre, médaille de la résistance. Gilbert Devez, résistant, parti à Londres en juin 1940. Jacques Doré, croix de guerre, médaille des déportés. Édouard Fontana, croix du combattant volontaire de la résistance, médaille de la France libre. Édouard Frédéric Dupont, croix de guerre, médaille de la résistance. Robert Emmerdinger, médaille de la résistance, médaille de la France libre et fondateur du Comité national des Français juifs. Roger Olindre, résistant, l'un des plus jeunes résistants de France, croix de guerre, croix de la valeur militaire. Robert Jacob, croix de guerre. Serge Jeanneret, croix de guerre, croix du combattant volontaire de la résistance. Augustin Jordan, compagnon de la libération, croix de guerre. Jacques Laffey, croix de guerre, croix du combattant volontaire de la résistance. Francis Massard, croix de guerre. Georges Noël, croix de guerre, croix de la valeur militaire. Pierre Sély, ancien déporté à Beckenwald, Albert Sauvanet, médaille des évadés, Pierre Sergent, ancien détenu du réseau Vélite Thermopyle, Marcel Thiberguien, croix de guerre, Pierre Tinson, ancien de la division Leclerc, Jean Vallée de Dozia, croix de guerre et fondateur du Maquis des Glières, Pierre Weber, médaille de la résistance, Henri Rissou, médaille de la résistance, et en particulier, parmi les fondateurs même du Front National, c'est-à-dire dès 1972, Jean-Maurice Demarquet, ancien de la première division française libre, Serge Jeanneret, je crois que je l'ai déjà cité, Pierre Mougron, ancien du BCRA, Paul Troisgros, ancien du BCRA, Roland Birgi, déclaré juste parmi les nations, Voilà. Donc ça fait déjà quand même pas mal de monde. Donc je vous remercie, chers collègues, de votre intervention qui me permet justement de rétablir une certaine vérité historique qui est complètement mise à mal par une manipulation qui intervient le plus souvent au moment des élections, bien entendu, pour nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Je rajoute que le Front National a été fondé 30 ans après la Seconde Guerre mondiale, aucun rapport avec la Seconde Guerre mondiale. Il a rassemblé des gens venus de divers horizons. Certains ont choisi le mauvais camp, d'autres ont été dans la résistance. Vous avez vu que dans la résistance, il y en avait énormément et beaucoup plus qu'on le croit. Et il ne viendrait pas à l'esprit de personne d'entre nous, parce que l'un des plus illustres socialistes que la France ait connu, François Mitterrand,
qui d'ailleurs était un ami de votre camarade, je vous signale.
Tout à fait. François Mitterrand, donc, qui a été vichiste, décoré de la Francisque. On n'est pas décoré de la Francisque comme ça. Il faut avoir un parrain, il faut être volontaire. Ben voilà, pour autant, on ne dit pas que le Parti Socialiste de cette époque-là était un parti de collabos. Vous avez au Parti Socialiste des gens qui ont été d'extrême gauche, qui ont été communistes trotskistes. C'est pas pour autant qu'on va dire que le PS c'est un parti d'extrémistes de gauche. Voilà, il y a des parcours, il y a des gens qui évoluent.